Pierre-Paul Riquet est monté au Louvre, à Paris, et il a rencontré Colbert. Et est-ce qu'on peut dire, Jean-François, qu'il l'a ébloui avec son projet de canal?
Même plus.
Plus que ça?
Il l'a convaincu. Et Colbert a convaincu Louis XIV qu'un projet de canal pouvait cette fois voir le jour en Languedoc.
Il a signé tout de suite, oui?
Alors, il n'a rien signé. Pour l'instant, il va juste envoyer des commissaires pour vérifier si c'est bien vrai que de l'eau peut venir en permanence alimenter à un point de partage un canal. Et pour encore plus vérifier sa faisabilité, bah, il s'agira de le piqueter.
Ça veut dire quoi, piqueter? Faire des petits trous.
Non, c'est avec des piquets, tout simplement. Ouais. Oui, à marquer le trajet.
Le tracé du canal.
Le tracé, absolument. On va aller retrouver à Norouze.
Alors, Norouze, c'est le seuil de partage des eaux, c'est le point de séparation et le point de départ du canal.
Et là, regardez, vous avez à cheval, à mulet, à dodane, ils sont rassemblés. Hein. Vous avez Paul Riquet, bien sûr, vous avez Galigné, le niveleur, vous avez Pierre Camas, le copain depuis le début, le fontainier, vous avez Isaac, Roux, le maçon, vous avez André aussi, l'ingénieur, vous avez... ils sont tous là. Et ils ont des fagots de piquets, oui, ils les portent avec leur cheval, leur âne, que sais-je. Et ils vont partir, qui, vers Toulouse, qui vers Narbonne-Béziers pour piqueter, c'est-à-dire dessiner ce fameux canal. Mais ça ne va pas se faire facilement. Hein.
C'est un travail de longue haleine.
Ah, mais c'est un travail de longue haleine et puis c'est un travail très précis. Et puis aussi, ce sont des choix. Faut-il rester près de l'Aude? Faut-il s'éloigner de l'Aude? Et si on s'éloigne de l'Aude, on va se retrouver parfois avec des choses peut-être insurmontables, comme passer des rivières, passer des torrents. C'est Paul Riquet qui toujours décidera du bon trajet. C'est lui qui déterminera la place qu'il souhaite donner à ce canal-là dans cette géographie. Mais attention, attention à ceux qui ont des terrains sur ce plan de piquetage. Ils sont peut-être pas tout à fait d'accord.
Mais alors, Jean-François, ça passe sur les terres de gens qui sont pas forcément toujours d'accord qu'on traverse leur terrain comme ça. Et Pierre-Paul Riquet, il doit avoir un peu les oreilles qui sifflent, non?
C'est une vieille histoire. Le roi intervient à sa demande et on va lire en chair. En chair. Et on va placarder aux portes des églises un avis comme quoi, ben de par le roi, on fait savoir que vous devez laisser passer Riquet. Voilà, je résume le texte, mais qu'il est hors de question qu'on leur interdise quelque accès que ce soit. Riquet est impatient, est tellement impatient qu'il va offrir au roi de payer de ses deniers une rigole d'essai entre Saint-Ferréol, la montagne noire, et le point de partage pour montrer que ce qu'il avance est possible et de se faire rembourser évidemment s'il réussit. Eh bien, il recrute 50 ouvriers. Entendez bien, hein? Et après, évidemment, l'accord de Colbert pour réaliser cette rigole, il va réussir en 4 mois le prodige de creuser cette fameuse rigole de la plaine. Aujourd'hui, on l'appelle comme cela. Celle qui amène les eaux depuis les petites rivières de la montagne noire. Pour l'instant, il n'y a pas encore le bassin des Saint-Ferréol. Jusqu'au point de partage. Et c'est le 9 novembre 1665, exactement. Qu'elle court, qu'elle brille, qu'elle saute, que l'eau, enfin, arrive au seuil de Norouze. Et c'est un triomphe.
Jean-François, nous sommes en janvier 1666. Pierre-Paul Riquet s'en va de nouveau à Paris.
En tout cas, il voit Colbert. Et Colbert n'est pas seul. Il est avec le chevalier de Clerville qui va accompagner ce projet. Hein. Clerville, c'est le commissaire général aux fortifications. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui précède Vauban. Venons-en aux réticences, venons-en aux difficultés.
Il manque des sous, ça n'avance pas le canal là.
Toujours pareil, vous savez que Versailles est en train d'être construit. Louis XIV demande de plus en plus d'argent à Colbert. Donc Colbert, lui, essaie de tenir les cordons de la bourse. Alors Riquet va proposer de financer le canal. Il va le financer à condition que ce canal soit un fief, c'est-à-dire qu'il en soit le seigneur avec droit de pêche, droit de moulin, droit de justice. Enfin,
ça c'est pour moi, Oui. Ça c'est pour moi aussi.
Exactement,
c'est
ça. Ça se faisait pas, hein. C'est nouveau dans le siècle, on va dire. D'avoir un fief qui soit créé de toutes pièces, comme au Moyen-Âge. Mais pas seulement, il a aussi une extension de son magistère sur les gabelles.
La gabelle, c'est le fameux impôt sur le sel qu'on a déjà évoqué. Oui. Ça rapporte beaucoup d'argent, donc il a une idée derrière la tête.
Oui, bien sûr, il reprend les gabelles du Roussillon et de la Cerdagne. Vous savez, alors là, un peu plus d'argent, bien sûr, mais aussi accès aux mines de fer de la Cerdagne, dont tu auras besoin, ne serait-ce que pour les clous. Enfin, très vite, des affiches sont apposées au portail des églises. 10 livres par mois, sans déduction des jours de fête, des dimanches ou de pluie. Les malades seront payés. Ça y est, on va recruter des terrassiers, des maçons, des bûcherons, des forgerons, des tailleurs de pierre, des mineurs et des niveleurs. C'est parti pour le canal depuis l'édit
de 1666, enfin signé par Louis.
Jean-François, on est maintenant en 1668.
Il y a pas mal de difficultés quand même, mais bon, il est partout, à Montagne-Noire, à Naurouz, à Toulouse, et puis dans le Roussillon aussi, où là, il y a eu des révoltes.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'histoire de la Gabelle?
Non, ils n'aiment pas trop l'impôt sur le sel.
Personne n'aime, ouais.
Bah oui, depuis 1659, le traité des Pyrénées, ils se mettent à le payer. Et donc, c'est des grandes révoltes, celles des Miquelets, par exemple, sont des Catalans, mais vraiment remontés. Et puis, c'est des morts aussi, c'est des...
Ah oui,
c'est des Gabelous assassinés, c'est pas rien. D'ailleurs, Colbert demande expressément à Riquet de mettre terme à ce type de révolte. Mais cependant, et malgré la guerre des Flandres, les fêtes à Versailles, les embellissements des jardins, bref...
Tout l'argent qui sort de partout.
Ah oui, alors qu'est-ce qu'il est dépensé, ce Louis XIV, quand même, hein. Mais malgré tout ça, il va faire couler les eaux depuis la Montagne Noire jusqu'aux écluses de Toulouse. Oui, ça y est, il y arrive, les eaux vont descendre de la montagne. Son pari est en passe de réussir, regardez-les, ce sera le 19 mai 68, voyez-les, ces eaux qui viennent le long de cette saignée. Alors ils sont jeunes, ils sont vieux, ils sont tout au long, ils y font la fête. Elle descend, elle passe avec des bouquets, des violettes, et Toulouse les accueille avec une grande fête, cette eau dans les faubourgs, une haie d'honneur. C'est les eaux du canal qui rejoignent la Garonne. Je suis fatigué là. Je ne peux plus, je suis comme Paul Riquet, mais enfin, c'est incroyable. On est à peine en 68.
Jean-François, on est en 1669. Les travaux titanesques, on peut le dire, du chantier du canal du Midi continuent. Rappelez-nous, Riquet fait travailler combien d'ouvriers à peu près?
Alors, en 1669, on peut en compter environ 9000. Il ira jusqu'à 12000. Hein. 9000 simultanément sur l'ensemble de ces chantiers. Et si vous tendez bien l'oreille, ça résonne du côté de 7. Ah oui, 7 est en pétard. Hein.
C'est-à-dire bon, c'est on creuse un coup d'explosif.
Ouais, ça pète de partout, si je puis dire. Et oui, dans le roc, on creuse à la masse. Parce que le mol avance. Les machines draguent. Parallèlement, la première partie du canal, ça y est, c'est fini. On peut rejoindre, Toulouse au point de partage.
Toulouse au point de partage.
Et de Saint-Ferréol, les eaux de la Montagnette coulent par la Rigole de la Plaine jusqu'au point de partage.
Est-ce qu'on sait quels sont les premiers produits qui ont transité par ce canal?
Laissons entrer les marchands de Gaillac. Ils sont là, à la porte. Le vin, oui. On voit qu'il y a de l'eau, on voit qu'on peut mettre un bateau dessus. Et si on amenait quelques fûtes de vin? Et pourquoi pas jusqu'à Castelnaudary? Et puis, ça va négocier, figurez-vous. Bien sûr. On va traiter, top là. Les premiers coches d'eau feront aller trois fois un trajet à l'aller, dans un sens, et trois dans l'autre. Ce sera le premier client du canal du Midi.
Il y a quand même toujours des péripéties. Tout ne roule pas aussi facilement que ça.
Cette année-là, c'est la trahison d'André aussi. Vous savez, André aussi, c'est son ingénieur, son fidèle, son bras droit.
Oui.
Il envoie une carte à Colbert et il prétend que c'est lui l'inventeur du canal. Alors Colbert a la délicatesse de transmettre à Riquet ce fait-là et lui laisse le choix. Et Riquet décidera de ne pas le sanctionner, mais cependant le tiendra quelque peu à l'œil.
Grand seigneur quand même.
Pour le coup, oui.
Jean-François, on avait évoqué les Catalans qui étaient assez remontés contre Pierre-Paul Riquet vers 1668. Là, on est quoi, 2 ans après?
Ouais.
Ça s'est un peu calmé?
Oula, pas du tout.
Ou pas? Non.
Non, c'est la guerre. Et Colbert l'enjoint de faire cesser le plus vite possible ces révoltes qui sont très très violentes, puisque tout le monde se tue. Là, les employés des Gabelles tuent des Miquelets, les Miquelets tuent des employés des Gabelles, bref. Et Riquet va y aller, hein, là-bas.
Tenter d'apaiser tout le monde.
Ouais, il va tenter d'apaiser. Évidemment, c'est la répression risque d'être terrible. Mais en même temps, il doit se débattre sur des questions financières, parce que la caisse des Gabelles, il va y puiser dedans. Le trésor tarde à payer. Le trésor, c'est-à-dire les promesses de Colbert. Et Colbert, en même temps, exige son dû de la Gabelle.
Il manquerait plus que par-dessus, en compte des petites difficultés techniques, et alors là, la coupe serait pleine.
Hein, vous avez mis la pioche dessus. Et oui, parce que à des moments, par exemple à Trèbes, hein, le sol est tellement rocheux, donc imaginez la difficulté qu'il y aura à le creuser, que certains, comme Clervy par exemple, demandent à ce qu'on détourne le canal. Mais Riquet, non, pas question. Le canal doit rester hors d'eau, loin de l'Aude, toujours pour des craintes d'inondation, vous savez. Donc il persiste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 3 fois plus de temps, 3 fois plus d'énergie et 3 fois plus d'argent. Le pauvre Riquet, il est épuisé. Il est sur une charrette quand on l'aperçoit revenir du Roussillon. Il est tellement épuisé, tellement malade qu'on va va même se demander s'il va s'en sortir. Colbert va lui écrire une lettre en lui demandant de prendre soin de lui. Mais je me demande d'ailleurs si c'est par amitié ou si simplement parce qu'il n'a pas envie de perdre celui qui pilote ce si grand chantier. Pendant que lui, Colbert, doit financer quoi? Eh bien, la guerre contre la Hollande qui se prépare. Et puis aussi les grandes fêtes, les signes à Versailles. Eh oui, il y a tout ça parce que Colbert, en même temps, il souffre autant que Riquet, moi je vais dire.